Bonjour, voici la dernière rediffusion de l'été, une émission consacrée aux sages-femmes, avec Nathalie Sage-Pranchère, la première diffusion remontant au 8 avril 2017.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
J'aime leur chaleur, la douceur de la peau, et je pense que même si j'ai vécu 7 ou 8 000 accouchements, j'ai toujours eu la même émotion. Quand on voit déjà le crâne, et tout d'un coup, cet enfant qui se déplie, qui naît, qui crie.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes, et au contraire, les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, Phanaret et Phaestis, tels étaient les noms des mères respectivement de Socrate et d'Aristote, et elles avaient un point commun, l'une et l'autre exerçaient le beau métier de sage-femme. Un beau métier puisque son lot est de mettre au monde les petits d'hommes, les petits et les petites. Mais un métier qui, au long des siècles, a été beaucoup bousculé, parfois méprisé, souvent relégué dans une situation inférieure. En 2013 encore a été lancée en France une grève des sages-femmes qui a duré plus d'un an, destinée à obtenir une amélioration de la place de la profession dans le système de santé et rappelant par là l'incertitude d'une situation qui m'a semblé mériter d'être éclairée dans le long terme. Car il ne s'agit pas seulement d'évolution médicale et de préoccupations démographiques, il s'agit des mutations depuis le Moyen Âge, des attitudes religieuses en face du sacré de la naissance et de la mort, des comportements collectifs devant la douleur de la parturition, douleur vécue comme inévitable ou même rédemptrice souvent, et plus largement encore, de la place des femmes dans les équilibres sociaux d'âge en âge. Nathalie Sage-Pranchère, chartiste et docteur en histoire, a travaillé avec valeur et mérite sur ce sujet et je me réjouis de l'accueillir ce matin. En ayant une pensée spéciale pour l'excellente actrice qu'est Catherine Froux, qui joue le rôle majeur à côté de Catherine Deneuve dans le film de Martin Provost, Sage-femme.
C'est la chanson que l'on entend quand le printemps sourit. Dans le pays d'Alsace, aux 1000 villages fleuris. Chanson joyeuse qui renaît au cœur des amoureux. Quand les cigognes familières tournoient dans les cieux. Les cigognes sont de retour sur les clochers des alentours, égayant de leurs ailes blanches les toits qui penchent les vieux faubourgs. Les cigognes sont de retour avec le soleil des beaux jours. Amis, chantons la ritournelle, la vie est belle, chantons l'amour. Combien de filles et garçons un soir se sont promis de s'épouser quand les cigognes referaient leur nid. Et quel beau jour quand apparaît au seuil d'un matin clair le vol joyeux de leur bonheur entre les sapins verts. Les cigognes sont de retour sur les clochers des alentours, égayant de leurs ailes blanches les toits qui penchent les vieux faubourgs. Les cigognes sont de retour avec le soleil des beaux jours. Amis, chantons la ritournelle, la vie est belle, chantons l'amour. Les grands oiseaux nous quitteront pour d'autres rendez-vous. Mais au printemps, ils reviendront dans le ciel de chez nous. Ce ciel d'Alsace, vrai symbole de la liberté, et sous lequel on est heureux de se mettre à chanter. Les cigognes sont de retour sur les clochers des alentours, égayant de leurs ailes blanches les toits qui penchent les vieux faubourgs. Les cigognes sont de retour avec le soleil des beaux jours. Amis, chantons la ritournelle, la vie est belle, chantons l'amour.
Nathalie Sage-Prancher, bonjour.
Bonjour.
Lina Margy, interprétée en 1947, Le retour des cigognes. Le retour des cigognes, c'est une image qui est de longue main. D'où vient-elle ?
Cette image des cigognes, en fait, elle appartient au vieux fonds culturel germanique depuis le Moyen-Âge ou au moins l'époque moderne, là où on en a des traces. Et cette image de la cigogne, elle est associée à la disparition de la cigogne qui s'en va, donc qui migre et qui revient et qui donc, d'une certaine manière, correspond à une renaissance. Ça a été très bien étudié par Anton Cerdecny qui montre comment cette cigogne, finalement, va être associée à la naissance, à l'arrivée des enfants, parce qu'elle est une figure de la renaissance. De la réapparition.
Les cigognes n'avaient pas encore cette portée au temps de l'Antiquité, au temps de Socrate.
Il est difficile de savoir si déjà à l'époque, dans cette région où on voit passer les cigognes, on avait déjà cette image de la cigogne comme amenant des enfants. Mais d'une certaine manière, cette idée du départ et du retour est peut-être beaucoup plus ancienne qu'on l'imagine.
Nous savons que, je le disais tout à l'heure, que la mère de Socrate était accoucheuse, était sage-femme. D'où l'idée de la maïeutique, qui est un accouchement. Dans le dialogue de Platon, où Socrate parle le plus de cet aspect familial de son art, il dit à Théétète, qui est un jeune homme laid mais attentif, c'est Platon qui dit qu'il est laid, « Eh bien, jeune innocent, n'as-tu pas entendu dire que je suis fils d'une très vaillante et vénérable sage-femme qui s'appelle Phénarète ?» Théétète, oui, cela je l'ai déjà entendu dire. Socrate, as-tu entendu dire que j'exerce le même art ? Théétète, aucunement. Socrate, eh bien, apprends-le. Quelle portée donnez-vous, Nathalie Sage-Prancher, à ce fameux passage ?
Alors, ce parallèle que crée Socrate entre le métier de sa mère et ce qu'il fait dans son quotidien d'accoucheur des âmes, et justement cette idée qu'il va chercher au plus profond de l'esprit de la personne qu'il met au monde, la part de sagesse qui est en cette personne. Et il développe justement toute cette idée qu'il surveille les âmes en travail et non les corps, donc à la différence des sages-femmes, mais que ce geste-là de délivrance est au moins aussi important puisque lui, il est capable de séparer le vrai du faux, ce que ne pourrait pas faire une sage-femme.
Et pourtant, il dit qu'il est stérile en matière de sagesse. Il fait surgir cette sagesse qu'il n'a pas vraiment lui-même.
Alors cette figure de la stérilité nécessaire de celui qui accompagne, il la reprend justement de la figure des sages-femmes, puisqu'il explique par ailleurs que les sages-femmes ne peuvent faire ce métier que lorsqu'elles sont hors d'état d'avoir des enfants, avec l'idée que les sages-femmes ayant obtenu leur mission d'Artémis, Artémis déesse vierge, Artémis a souhaité que les sages-femmes lui ressemblent dans cette incapacité à produire des enfants au moment où elles remplissent cette fonction. Mais il insiste aussi sur le fait que pour pouvoir exercer cette fonction, il faut qu'elles aient été elles-mêmes mères par le passé, puisque la nature humaine est trop faible pour atteindre finalement ce que peut faire la divinité. La nature humaine doit avoir expérimenté dans son corps, dans sa chair, l'enfantement pour pouvoir l'accompagner.
Mais ce n'est pas le cas d'Artémis, puisqu'elle a été chargée de présider aux accouchements sans avoir jamais enfanté.
Mais justement, Artémis est une déesse. Donc elle n'a pas besoin d'avoir expérimenté dans sa chair. Elle a une forme d'omniscience qui lui permet d'accompagner.
Tout ce qui entoure cette naissance du côté de la gentillesse un peu mièvre je veux dire les choux et les roses, cela date de quand ?
Alors toutes ces figures des choux et des roses, on va les trouver à partir du 19e siècle. Et on a au cours du 19e un certain nombre de représentations qui mettent en valeur justement des bébés dans des choux. Il y a un très joli petit film qui date du tout début du 20e siècle qui s'appelle « La fée aux choux ». Et qui met en scène justement une sage-femme. La première version du film s'appelait la sage-femme de première classe. Et donc une fée qui se balade au milieu d'un champ de choux où elle va prélever des bébés au fur et à mesure. Donc c'est quelque chose qu'on voit naître à la fin du 19e, début du 20e.
Un film muet, c'est un
des rares muet, cas. Oui, tout à
c'est
fait.
Des rares cas où la télévision serait supérieure à notre radio.
En un sens, effectivement.
Alors je voudrais maintenant que nous allions rencontrer plus concret. Et une manière de le faire sous l'éclairage de l'histoire, c'est de vous conduire loin en arrière jusqu'au début du XVIIe siècle à l'occasion de l'accouchement du tout petit Louis XIII. C'est Marie de Médicis, la mère, la femme d'Henri IV. C'est un récit de la sage-femme, Louise Boursier, qui a eu la charge très lourde de faire naître le petit dauphin.
La nuit du 26e septembre de l'an 1601, à minuit, le roi m'envoya appeler par un nommé Pierrot qu'il ne me donna pas loisir de me lasser, tant il me hâtait. Entrant dans la chambre de la reine, je reconnus qu'elle allait accoucher. Le roi envoya donc quérir les princes, mes seigneurs de Conti, de Soissons et de Montpensier, puis aussi monsieur de la Rivière, premier médecin du roi, monsieur de Laurence, premier médecin de la reine, avec monsieur Guillemot, chirurgien du roi. Le mal de la reine dura 22h15. Le roi me demandait à toute heure si la reine accoucherait bientôt et de quel enfant ce serait. Je lui dis que ce serait ce que je voudrais.
Et quoi ? N'est-il pas déjà fait ?
Il est fait enfant, mais j'en ferai un fils ou une fille, ainsi qu'il me plaira.
Sage-femme, puisque cela dépend de vous, mettez-y les pièces d'un fils.
Si je fais un fils, monsieur, que me donnerez-vous ?
Je vous donnerai tout ce que vous voudrez, ou plutôt tout ce que j'ai.
Je ferai un fils. Et ne vous demande que l'honneur de votre bienveillance, et que vous me vouliez toujours du bien. Alors je reçus l'enfant, fis ce que j'entendais avoir à faire, et l'enveloppai bien. Il était en grande faiblesse de la peine qu'il avait endurée. Je demande du vin, on m'apporte une bouteille. Je dis au roi, « Sire, si c'était un autre enfant, je mettrais du vin dans ma bouche et lui en donnerais, de peur que la faiblesse ne dure trop. » Le roi me mit la bouteille contre la bouche.
« Faites comme à un autre. »
J'emplis ma bouche de vin et en soufflai à l'enfant. À l'heure même, il revint et savoura le vin que je lui avais donné. Le roi n'avait vu que le visage et ne savait quel enfant c'était. Il alla vers le feu, triste et changé, puis s'en revint vers moi et mit la bouche contre mon oreille.
« Sage-femme, est-ce un fils ?»«
Oui, monsieur. »
Je vous prie, ne me donnez point de courte joie. Cela me ferait mourir.
Je lui fis voir que c'était un fils. Il leva les yeux au ciel, ayant les mains jointes, et rendit grâce à Dieu. Les larmes lui coulaient sur la face, aussi grosses que de gros pois.
C'était une lecture tirée de la Gazette des Français, une émission du 24 mars 1962. Nathalie Sage-Pranchère, ces pratiques médicales vous paraissent un peu désuètes. Est-ce qu'on soufflerait encore du vin dans la bouche des petits nouveau-nés ?
Alors évidemment, on ne ferait pas boire d'alcool aujourd'hui à des nouveau-nés, mais c'est vrai que le recours au vin comme élément qui va permettre de réanimer l'enfant quand il est un peu faible à la naissance, c'est quelque chose qui se poursuit, qu'on retrouve jusqu'au 19e siècle.
Dans le Petit Lavis, on nous avait appris qu'on avait mis une goutte de Jurançon sur la langue du jeune Henri IV, du futur Henri IV.
Effectivement, cette pratique du vin qui, de toute façon, a quand même une symbolique dans le monde chrétien extrêmement forte, est une pratique assez régulière et, de manière générale, à l'époque, le vin était presque moins dangereux que l'eau, en un sens. Mais pour ce qui est des pratiques de Louise Boursier, qu'on appelle aussi Louise Bourgeois de son nom de jeune fille, elle nous renvoie finalement à une vision de la naissance royale dont on n'a pas vraiment l'habitude, puisqu'au début elle raconte qu'on a convoqué beaucoup de gens pour cette naissance, mais finalement l'échange se fait entre elle et le roi et on s'aperçoit qu'au fond il y a la reine en train d'accoucher, la sage-femme à ses côtés et le roi qui est dans cette attente, qui est présent finalement à l'accouchement de sa femme. Donc c'est un triangle qui se crée autour de cette naissance où la sage-femme profite de sa légère supériorité, de son petit temps d'avance sur le roi puisque elle sait quel enfant elle a mis au monde. Et le roi, qui est dans cette attente extraordinaire, qui pour Henri IV, cette attente est l'aboutissement finalement de décennies d'incertitudes vis-à-vis de la possibilité d'avoir un héritier légitime. Et le rapport entre les deux, pour le coup, est assez joliment croqué dans un récit qui est un récit de Louise Boursier elle-même, puisque c'est ce qu'elle a écrit une dizaine d'années après la naissance.
Cet épisode, d'ailleurs, pose la question qui est de tout temps de la présence du père. Vous parlez d'un triangle. Les choses ont beaucoup évolué dans la période récente. Les pères sont beaucoup plus fréquemment témoins de la naissance de leurs enfants.
Alors, il y a effectivement aujourd'hui une forme de systématicité de la présence du père auprès de la future accouchée, auprès de la jeune maman. Il ne faut pas non plus sous-estimer la présence des pères dans le passé. C'est quelque chose qui était probablement beaucoup plus fréquent qu'on imagine. D'abord parce qu'à la campagne, on pouvait avoir besoin d'eux. Alors, ils n'étaient pas forcément là jusqu'au bout, jusqu'à l'expulsion de l'enfant, mais ils étaient aux côtés de leur femme. Et dans le cas des rois, de toute façon, ils étaient présents, puisqu'on sait par exemple que Louis XIV a été présent pour l'accouchement de son épouse, mais aussi pour l'accouchement de sa belle-fille, de ses petites filles. Il était celui qui était présent, surtout, évidemment, quand on attendait un dauphin.
Et ses bâtards ?
Alors, pour la naissance de ses bâtards, a priori, il n'est pas présent, mais il fait en sorte que soit présent un accoucheur. D'ailleurs, c'est le premier roi qui fait appel pour la naissance d'un de ses enfants à un accoucheur, le chirurgien Clément, qui était d'Arles, qui met au monde des enfants de Mademoiselle de la Vallière.
Vous en savez des choses ? Alors, c'est dire pour ça que vous êtes là. Remontons plus en arrière et en allant vers les classes populaires et les campagnes. Je voudrais que vous nous expliquiez ce qu'a été pendant très longtemps le rôle de la matrone. Dès lors que, tout de même, en dépit de la présence proxime du père, c'est une affaire de femme d'abord l'accouchement.
Alors effectivement, aux côtés de la femme en travail, on trouve forcément une autre femme. Que cette femme soit la mère, la sœur, la voisine, elle a pour caractéristique d'avoir déjà accouché elle-même. Et effectivement, dans les villages, on va trouver de ces femmes qui ont accouché 5, 6, 8, 10 fois et qui, par leur expérience personnelle de la naissance, vont être appelées plus fréquemment pour accompagner finalement leur voisine dans l'accouchement.
Déjà Socrate.
Oui, effectivement, Socrate soulignait cette importance de l'expérience personnelle. Donc dans les campagnes, on va avoir ces femmes qu'on appelle des matrones, qu'on appelle des levandières dans le sud-ouest, c'est-à-dire des leveuses d'enfants, qu'on va trouver aussi sous le nom de Maïdoussou, la mère de soie, c'est très joli, c'est en occitan. Donc on a toutes ces femmes qui n'ont pas de formation à proprement parler, si ce n'est leur propre expérience. Et ces femmes vont finalement accompagner la plupart des accouchements dans les campagnes. En ville, on a des sages-femmes qui ont une formation un peu plus poussée, qui sont reconnues par les corps de ville, qui sont salariées par les corps de ville, et ce, dès le XIVe, XVe siècle. Mais on a donc une dualité assez forte entre des campagnes où on s'accompagne entre soi et des villes où d'ores et déjà, on a un embryon de professionnalisation.
Alors celles qui sont formées, comment le sont-elles à ce moment-là ?
Alors, à partir du 14e, à Paris, à l'Hôtel Dieu, on a une école. Alors, une école, c'est beaucoup dire. Mais la maîtresse sage-femme de l'Hôtel Dieu accueille auprès d'elle des apprentis, trois ou quatre apprentis qui restent pendant un trimestre et qui vont suivre les gésines, donc les accouchements qui ont lieu à l'Hôtel Dieu. Et elles apprennent finalement par imitation.
Qu'est-ce qu'on leur apprend, en fait ?
On va leur apprendre, évidemment, l'anatomie. On va leur apprendre le déroulement des accouchements, on va leur apprendre les bons gestes aussi par rapport aux accouchements pathologiques, les accouchements qui tournent mal. Et c'est véritablement cette observation et cet entraînement répétitif qui va leur donner une très très haute formation, qui fait que la plupart d'ailleurs des sages-femmes de cour en France, pendant toute l'époque moderne, mais dans des pays proches de la France, à la cour de Savoie par exemple, vont être des femmes qui sont passées par l'Hôtel Dieu à Paris.
D'où vient l'expression « sage-femme » De quand date-t-elle ?
Alors, l'expression « sage-femme », on la trouve dès la fin du Moyen-Âge. On va la trouver à l'époque moderne. On la trouve en concurrence avec d'autres expressions, avec matrone, avec ventrière, avec femme sage.
Ventrière.
Avec l'idée qu'on va suivre et qu'on va protéger le ventre. Il y a tout un discours, d'ailleurs, sur la protection du ventre, y compris un discours juridique à cette époque.
C'est-à-dire, qu'est-ce que dit le droit ?
Le droit dit que, par exemple, quand une femme est veuve mais qu'elle est enceinte, on doit prévoir une protection du ventre, donc dans la perspective de l'enfant à naître.
Si l'enfant a été conçu du vivant du mari disparu,
si l'enfant,
c'est
bien
ça ?
Bien sûr, si l'enfant a été conçu du vivant du mari et qu'on peut raisonnablement attribuer la paternité au mari décédé.
C'est ce qui est arrivé avec l'enfant du miracle encore sous la Restauration, lorsqu'après l'assassinat du fils de Charles X, son fils est apparu, effectivement, et c'était déjà une ventrière.
Alors, on parle là de la protection, effectivement, du ventre. Au moment où naît le petit duc de Bordeaux, c'est une sage-femme et c'est un chirurgien qui sont présents aux côtés de la future mère. En revanche, on peut envisager à peu près le même cas quand c'est la reine Clémence de Hongrie, veuve de Louis XI au Moyen-Âge, qui attend le futur petit Jean II, le posthume, dont on sait qu'il ne survivra pas, sauf chez Maurice Druon.
Tout le monde le sait, évidemment.
Mais on a là aussi une protection du ventre. Et là, c'est beaucoup plus probablement une ventrière qui, effectivement, ensuite met au monde le bébé.
Il y a, dès ce moment-là, un lien entre la préoccupation démographique et la préoccupation sanitaire. On voit apparaître la peur du dépeuplement, qui est d'ailleurs assez fantasmatique au XVIIIe siècle.
Alors tout à fait, le XVIIIe siècle, c'est dans la lignée d'auteurs comme Montesquieu qui fait dire à ses persans en visite à Paris que l'Europe se dépeuple, apparaît cette crainte d'une dépopulation de l'Europe et du monde.
Il n'y a que Malthus qui est content.
Alors Malthus, à la fin du siècle, à un moment où par ailleurs, même en France, la comptabilité démographique s'est quand même nettement améliorée. Malthus, lui, déclare que, de toute façon, la population augmente beaucoup plus vite que les subsistances et qu'il va donc, à un moment, falloir réduire cette augmentation de la population. Mais c'est vrai que, globalement, il y a une forme de terreur de la dépopulation qui va très profondément marquer la pensée gouvernementale, en tout cas en France, au XVIIIe, au XIXe et encore au XXe siècle. Puisqu'on va le retrouver jusque dans les années 70-80 avec les campagnes justement en faveur du troisième enfant. Et la France est quand même réputée pour être un pays démographiquement extrêmement dynamique.
Nous parlions des matrones. Il y a assez tôt une dénonciation de leur rôle, une critique avec pendant assez longtemps quelque chose comme une confusion entre la sorcière et la matrone. En 1484, je vois que le pape Innocent VIII déclare que les sages-femmes causent le plus grand dommage. Et il consacre un texte particulier à ça. Il explique que la situation de sorcière et celle de sage-femme, c'est assez proche.
Alors effectivement, le pape Innocent VIII s'appuie là sur un texte qu'on appelle le Marteau des sorcières, qui est l'œuvre de deux dominicains qui écrivent dans leur grand ouvrage qui va être le manuel finalement de lutte contre la sorcellerie de toute l'époque moderne, que les pires parmi les sorcières, ce sont les sages-femmes. Et de façon assez amusante, à l'inverse, quand on cherche justement des procès de sorcellerie qui impliqueraient des sages-femmes, on n'en trouve pas. Donc on voit là en partie une forme de fantasme, sans doute déjà au XVe siècle, des dominicains qui écrivent, pour qui ces femmes qui tournent autour de la naissance, autour de l'enfant, autour du placenta, sont des femmes qui ont tout entre les mains pour faire de la sorcellerie. Sauf qu'il ne faut pas oublier que de la sage-femme, on attend qu'elle sauve non seulement la vie de l'enfant, mais qu'elle sauve son âme, puisque la sage-femme est le vecteur du baptême. C'est elle qui, en cas d'urgence,
va baptiser
l'enfant, tout à fait.
Cette dénonciation ancienne, cette crainte ancienne en face des pouvoirs que l'on délègue à la matrone ou à la sage-femme vient progressivement se doubler de critiques plus directement médicales sur leurs compétences supposées ou insuffisantes. Je pense à ce texte que vous citez dans votre livre, Nathalie Sage-Pranchère, ce texte d'un ancien démonstrateur. On est déjà dans les débuts de la Révolution. Pilez de l'Ariège, qui est un démonstrateur. Qu'est-ce que c'est un démonstrateur ?
Alors, un démonstrateur, c'est un chirurgien qui enseigne l'art des accouchements. C'est le titre qu'ils obtiennent à la fin du XVIIIe.
Donc, dès ce moment-là, on constate quelque chose comme une concurrence ou une inquiétude de la profession médicale. C'est encore très, très actuel à l'égard des sages-femmes. Il écrit ceci, c'est assez terrifiant. On les voit, elles, journellement déchirer les chairs, meurtrir les viscères, mutiler, arracher les membres et séparer la tête du corps des tendres enfants. On pourrait les peindre encore un crochet de fer à la main, instrument de douleur et de mort, cherchant au hasard dans les entrailles d'une femme éperdue le cher objet de sa tendresse qu'ils y assassinent. C'est la faux de la mort, entre les mains homicides de l'ignorance qui frappe au milieu des ténèbres. Fin de citation.
Ce texte de Pillès, il est absolument extraordinaire parce qu'il rassemble en fait l'ensemble des clichés qui ont pu se développer depuis un siècle. Il arrive en bout de course, on est en 1800, et lui il fait finalement un melting pot de tous ces éléments-là. Pillès va dénoncer l'incapacité des matrones, mais aussi très largement parce que derrière il faut justifier la formation des futures sages-femmes. Les matrones se retrouvent prises d'une certaine manière entre le marteau de la crainte de la dépopulation et l'enclume de l'ambition des chirurgiens. Les chirurgiens, à partir de la fin du XVIIe, veulent être reconnus comme une profession médicale à part entière. Ils sont profondément méprisés par les médecins parce qu'ils ne sont pas passés à l'université, parce qu'eux, finalement, vont couper les chairs, vont toucher les patients. Et ils vont chercher un domaine où, finalement, ils vont pouvoir faire montre d'une particulière capacité. Ça va être le domaine des accouchements. Et évidemment, pour justifier leur capacité dans le domaine des accouchements, il va falloir dénoncer les matrones. Puisque si vous voulez justifier votre indispensabilité, il faut montrer qu'il y a une situation à régler. Donc on a cette dénonciation qui est très largement instrumentalisée par les chirurgiens à leur profit professionnel. Non qu'ils veuillent faire les accouchements. Ils ne souhaitent pas prendre en main les accouchements. Ce n'est pas intéressant d'un point de vue intellectuel et scientifique. Ça ne rapporte rien. Et en plus, ça demande beaucoup de temps. En revanche, ils veulent devenir démonstrateurs.
Il y en a un néanmoins, au moins un et probablement plusieurs, qui raconte son métier d'accoucheur. On est à l'époque du roi Soleil et on est dans la campagne. J'extrais ce texte du traité d'accouchement de Mauquet de la Motte, qui a été lu par Jean-Luc de Baptiste dans les matinées de France Culture le 3 octobre 1995. Accrochez-vous.
Le 21 novembre de l'année 1700, je fus mandé pendant la nuit pour aller à la paroisse de Montaigu accoucher une très pauvre femme qui était en travail depuis 2 jours. Je trouvai l'enfant qui présentait les pieds et la tête également avancés, ce qui avait fait croire à la sage-femme qu'elle n'avait qu'à travailler à élargir le passage et qu'aussitôt la tête sortirait, d'autant que les douleurs de la femme, qui étaient fortes et redoublées, semblaient devoir beaucoup contribuer à la faire promptement accoucher. Ce fut aussi à quoi elle s'employa de son mieux. Mais ce fut en vain qu'elle déchira toute cette pauvre femme, à qui je trouvai les grandes lèvres prodigieusement enflées par les violences qu'elle y avait faites, aussi bien qu'aux nymphes, au clitoris et à la fourchette, qui étaient toutes dilatées sans qu'elle eût pu faire avancer la tête en aucune manière. La matrice s'était tellement resserrée et si étroitement appliquée sur l'enfant depuis le temps que les eaux étaient écoulées, joint aux violentes et continuelles douleurs que cette pauvre femme souffrait depuis le commencement de son travail, qui augmentait encore sitôt que je lui touchais, que je me vis à bout. Tantôt je tâchais en repoussant la tête d'attirer les pieds, tantôt je repoussais la tête seule, et tantôt enfin je tirais les pieds seul, après quoi je m'attachais à la tête de laquelle je tirais une partie du cerveau et l'attirais de toute ma force, aussi bien que les pieds, ayant les miens appuyés contre le bord du lit, la femme étant tenue très fermement. Tout cela me fut également inutile. Le passage était tellement engagé que cette malade n'avait pas pissé ni été à la selle depuis plus de 24 heures, qui est une preuve de l'état pitoyable où elle était réduite, sans que néanmoins le courage lui manquât. Je lui fis donner une rôtie au cidre et lui en fis boire un grand verre, n'ayant autre bien à lui faire, pendant que je repris un peu haleine. Après quoi, je la fis tenir encore mieux qu'auparavant. Je remis mon pied contre le bois du lit, et en ramassant toutes mes forces, et encourageant la femme à céder, je fis un dernier effort, et tirai si violemment, que l'enfant, venant à s'ébranler, sortit tout d'un coup, sans savoir comment.
Sans savoir comment, le malheureux, on se demande s'il était vivant, on a tiré une partie de son cerveau.
Non, il n'est probablement pas vivant, effectivement, à ce moment-là. Et ce qui est très frappant dans ce texte et dans ce récit, c'est que l'objectif de Mauquet de la Motte est de sauver la mère. Puisqu'il va directement, finalement, au démembrement de l'enfant pour sauver la mère dans l'espoir de réussir à la conserver vivante. C'est d'ailleurs l'objectif premier des chirurgiens et des sages-femmes jusque très avant dans le 19e siècle. On ne va jamais privilégier l'enfant sur la mère. Alors ce texte, il est extraordinaire parce qu'il est d'une précision toute clinique. On a une précision médicale dans le vocabulaire, dans les termes, dans la description. Et à la différence de certains textes ultérieurs, on n'a pas de tentation de forcément montrer qu'on est le plus fort et qu'on va sauver la situation. Il y a une vraie humilité devant cette situation très compliquée, il dit à la fin, sans savoir comment. Lui-même est finalement étonné d'avoir réussi à sauver la situation. Mauquet de la Motte, c'est sans doute un des rares chirurgiens qui fait véritablement de la pratique des accouchements une de ses pratiques principales à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe. On n'a pas tellement d'équivalent en France de figures comme Moquet de la Motte.
Le plus souvent, il délègue.
Oui, effectivement. Généralement, ils vont déléguer aux sages-femmes. L'exemple qu'on avait tout à l'heure de Louise Boursier, en fait, était un exemple de couple où les choses étaient équilibrées. Martin Boursier est chirurgien, Louise Bourgeois-Boursier, son épouse, est sage-femme. Et là, on voit bien, justement, l'équilibre qui souvent se crée au sein de ces couples médicaux.
Vous évoquez, Nathalie Sage-Pranchère, le choix qui est souvent celui de la matrone, de la sage-femme, du médecin, du chirurgien. Est-ce qu'on sauvera la mère ou l'enfant? On choisit la mère, il n'empêche que la mortalité en couche reste aujourd'hui encore impressionnante. Plus encore d'ailleurs lorsque on donne naissance dans une maternité que lorsque on donne naissance chez soi.
Alors, à l'époque moderne, on va dire jusqu'au 18e, 19e siècle, on a un taux de mortalité qui est de 1 à 1,5% par accouchement, que vous devez évidemment cumuler sur le nombre d'accouchements qu'une femme connaît au cours de sa vie. Donc on est autour de 10% de risque de mourir en couche pour une femme. C'est considérable, effectivement. Aujourd'hui, évidemment, on compte en pour 100 000 le risque de mort en couche. Alors effectivement, de façon assez surprenante, mais qui au fond ne l'est pas tant que ça, aujourd'hui, bien sûr que le taux de mortalité en couche est plus élevé à l'hôpital qu'à domicile, pour la bonne et simple raison, c'est que d'une part, les accouchements à domicile sont résiduels aujourd'hui en France, en nombre, et d'autre part, les accouchements qui ont lieu à domicile, de toute façon, sont des accouchements qui concernent des grossesses non pathologiques, qui ont été très bien suivies, des femmes en parfaite santé, dont l'accouchement se déroule bien. Donc tous les accouchements qui présentent un risque, de toute façon, se déroulent à l'hôpital.
Et vous avez observé qu'au 19e siècle, dans vos travaux, vous avez observé que la mortalité dans les maternités était énorme, presque 50% à certaines époques.
Alors, on a des pics de mortalité considérables au 19e siècle dans certaines très grandes maternités, comme Port-Royal à Paris, où on est parfois obligé de fermer la maternité à cause justement des épidémies de fièvre puerpérale. Ce taux de mortalité, il est lié à l'absence de pratique d'hygiène, en tout cas, tout simplement le fait de se laver les mains. On ne se lave pas les mains, on ne va pas laver la peau sur laquelle on va faire accoucher les femmes, sur le lit d'accouchement. Donc, on a une multiplication, évidemment, des risques bactériens dans ces espaces-là. Alors, il ne faut pas non plus imaginer que toutes les maternités étaient à ce degré-là. Parce que les maternités de province où vous aviez entre 50 et 100, 200 accouchements par an, c'est-à-dire un accouchement tous les 2-3 jours, là, le taux de mortalité était bien plus faible. Tout simplement parce que d'un jour à l'autre, les gens se lavaient les mains, parce qu'on lavait les draps. Et j'avais pu étudier le cas de Tulle en Corrèze, où les taux de mortalité étaient 3 à 4 fois inférieurs au taux parisien.
Saluons la
Corrèze. Tout simplement parce que, évidemment, parce que les accouchements avaient lieu tous les 3 jours.
Alors on voit surgir dans ce paysage, dans ce monde des naissances, on voit surgir un certain nombre de personnalités fortes. Vous avez évoqué Louise Bourgeois, à ne pas confondre avec l'artiste contemporaine, Louise Boursier. Mais il y a une autre femme dont le portrait est frappant dans vos écrits, c'est Angélique du Coudray. Racontez-nous qui était cette femme.
Alors Angélique du Coudray, c'est une Auvergnate montée à Paris, comme beaucoup d'Auvergnats, mais avant la lettre, puisqu'elle y monte au XVIIIe siècle. Elle fait ses études à l'Hôtel Dieu et elle va être appelée, après une quinzaine d'années d'exercice à Paris, par le seigneur de Thiers pour venir accoucher les femmes de la seigneurie de Thiers. Arrivée en Auvergne, elle découvre les pratiques des matrones et elle est horrifiée par la violence justement exercée sur les corps des femmes et sur les corps des enfants. Et elle va proposer de donner des cours, de dégrossir un petit peu ces matrones pour en faire des femmes aptes à accompagner les accouchements.
Faire descendre progressivement la connaissance ou la science dans les profondeurs du pays, c'est ça son
exactement.
Ambition.
Exactement, on a cette figure d'une femme qui va aller apporter le savoir dont elle a pu bénéficier à Paris vers finalement toutes ces matrones de campagne. Elle va être très vite suivie par le pouvoir royal, par l'intendant d'Auvergne tout d'abord, puis très officiellement par Louis XV qui va lui donner un brevet qui va lui permettre d'aller enseigner les accouchements aux sages-femmes, aux futures sages-femmes et aux chirurgiens aussi qui mettent leur ambition dans la poche le temps de suivre les cours de Madame du Coudray un petit peu partout en France.
C'est une façon aussi de peut-être de faire la chasse à tout ce qu'il peut y avoir de sulfureux dans la réputation des matrones. Parfois même on les accusait d'être des faiseuses d'anges, de contribuer à avorter. Ou est-ce que vous pouvez dire que c'était complètement séparé?
Alors, la mauvaise réputation des matrones au XVIIIe, elle est largement liée à leur incapacité à sauver les mères et les enfants. La figure de la faiseuse d'ange, on va la voir émerger, mais plutôt à la fin du XIXe siècle. Il y a une forme de découplage entre les deux, tout simplement parce qu'à la fin du XVIIIe, on n'a pas véritablement de technique efficace, si je puis dire, pour provoquer des avortements non naturels. En revanche, la figure de Madame du Coudray, effectivement, va modifier la figure de la sage-femme et va faire intégrer finalement à la pensée gouvernementale l'idée que cette profession, c'est le bon choix pour encadrer les populations et pour encadrer la naissance. Parce qu'une sage-femme, on peut la former relativement vite, on va la tirer du peuple, donc elle sera capable de se faire entendre du peuple, et d'une certaine manière, elle pourra travailler sans attendre des gains considérables, à la différence des chirurgiens. Donc, à partir de Madame du Coudray et à partir de tous les cours d'accouchement qui vont se créer dans les 20-30 dernières années du 18e en France, on va voir émerger le besoin d'une profession, celle de sage-femme, et un choix politique très concret de faire de la sage-femme l'agent d'encadrement de la naissance.
Le recrutement se fait donc dans des classes très populaires, parce que c'est un élément d'ascension sociale de devenir sage-femme.
Alors, le recrutement, il se fait dans des classes populaires. C'est un objectif qui se maintient tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. Il faut tirer les sages-femmes de la classe des pauvres. C'est dit et répété dans tous les textes qu'on va trouver. Parce que seule une sage-femme tirée des classes populaires saura parler aux classes populaires. Il y a l'idée qu'il faut qu'elle vienne de ce milieu-là pour gagner sa confiance. D'autre part, ces femmes vont attendre de l'accès à la profession de sage-femme la possibilité, effectivement, de gagner leur vie. Il va y avoir l'espoir de pouvoir finalement passer d'une aide de voisinage à véritablement une activité lucrative. Le tout étant à nuancer très largement parce que certes on gagne à peu près sa vie à être sage-femme, on n'y fait pas fortune.
À la fin du 19e siècle, être institutrice ou être sage-femme, ce sont les deux moyens pour des jeunes femmes issues des classes populaires d'exercer un métier pratiquement.
Alors ce sont effectivement deux professions considérées comme honorables et de façon intéressante la profession de sage-femme arrive même finalement avant celle d'institutrice puisque pendant longtemps elles ont des situations plus protégées. L'institutrice, on peut penser un petit peu à cette figure alors qui est très anglaise mais la figure de Jenner qui va aller s'embaucher dans les familles etc. On a la même chose pour les institutrices en France qui se font préceptrices dans les familles bourgeoises. La sage-femme, elle, a un certain prestige social et elle a une véritable autonomie dans son travail.
Et on ne souhaite pas qu'elle reste vieille fille, comme c'est le cas souvent des préceptrices.
Alors, effectivement, la sage-femme, elle va se marier, elle a des enfants. On a de ce point de vue une attitude sociale qui est complètement différente. Bon, on peut aussi se dire que si la sage-femme se marie, c'est parce que d'une certaine manière, elle ne peut pas de toute façon subvenir à ses besoins seule. Mais il y a effectivement de ce fait de très jolies dynasties de sages-femmes qui vont se créer et la transmission intrafamiliale qui passe toujours par l'envoi à l'école. Donc il n'y a pas de tentative d'ailleurs de transmettre uniquement de mère à fille le savoir. C'est la mère qui envoie sa fille à l'école pour qu'elle revienne ensuite lui succéder. Mais donc on a ces jolies transmissions à l'intérieur des familles.
Et on lui apprend à concilier savoir et pudeur.
Alors ce sont des aspects très importants et l'exigence de pudeur est d'autant plus importante que la sage-femme sait beaucoup de choses que ne devrait pas savoir une jeune femme de 18 ans qui entame ces études-là. D'où la volonté de montrer à quel point ce sont des jeunes femmes sérieuses, d'où le fait qu'on va créer des internats. Parce qu'il ne faut pas les laisser sortir, on les surveille. Les seules sorties auxquelles elles ont droit, c'est la messe le dimanche matin.
Il ne faudrait pas qu'elles puissent utiliser de funestes secrets.
Alors, il ne faudrait pas qu'elles puissent utiliser de funestes secrets, et surtout, il ne faudrait pas qu'elles soient tentées peut-être de mettre en application des connaissances qu'elles auraient découvertes dans le cadre de leurs études. Évidemment, au-delà, elles suscitent énormément de fantasmes, et on a des récits extraordinaires des jeunes militaires qui vont siffler les sages-femmes lors de leur passage quand elles vont à la messe, et le désespoir des professeurs d'accouchement qui disent « on fait tout pour prouver à quel point elles sont respectables », et les gens continuent à être sur ce vieux cliché.
Avançons dans le temps. Nathalie Sage-Prancher, je vais vous faire entendre une interview d'une très vieille dame, le 2 novembre 1962, elle s'appelait Madame Hervé, c'est la doyenne des sages-femmes et sa mémoire nous ramène à la fin du 19e siècle. Vous nous direz si son propos est représentatif ou non.
Combien d'enfants avez-vous mis au monde?
Oh, 3 000 au moins.
Mais quel âge ont-ils maintenant? 70 ans l'aîné.
Et vous savez ce qu'il est devenu, ce bébé de 1892?
Elle n'est pas morte encore.
Ça devait être un métier difficile à cette époque-là.
Ah, c'était dur. Ah oui, c'était dur.
Mais comment alliez-vous chez vos clients?
Il n'y avait pas de sage-femme où j'étais. Il y avait de natrone. On m'attendait comme le messie là-bas. Je ne régalais pas tous les jours, vous savez. Dans la presqu'île, il n'y avait pas de médecin. Il n'y avait pas de sage-femme. Je faisais la sage-femme, l'infirmière, la garde malade. Et vous savez, les villages éloignés, les uns des autres, pas de voiture, pas de bicyclette, rien. Que les gens, il y avait tout de même un vieux cheval dans la presqu'île qui allait à Carnac chercher le médecin, à 30 km, 25, 30 km. Mais souvent, le cheval ne marchait pas avec la tempête qui faisait dans la falaise. La veille que mon fils est né, j'étais à 3 km de chez moi. Et puis, je faisais un accouchement. Une tempête épouvantable. Une tempête de surroît, vous ne connaissez pas ça?
Si, si. Pour vous éclairer, comment faisiez-vous? Vous aviez une lanterne pour...
Mais la lune, c'est la lune qui m'éclairait.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
C'était un reportage de Paris Inter, en novembre 1962 donc.
Alors le récit effectivement de cette sage-femme renvoie complètement à une réalité de la pratique à la fin du 19e siècle. Elle montre à la fois que la sage-femme est devenue une figure repère pour les populations, puisqu'on lui fait appel bien sûr pour les grossesses, pour les accouchements, mais on lui fait aussi appel comme infirmière, comme garde-malade. Elle est la figure de référence médicale pour les populations rurales. Et là, on est dans la presqu'île de Quiberon, donc véritablement au fin fond de la Bretagne occidentale. Donc, cette figure de sage-femme nous rappelle d'une part, quand elle dit qu'il n'y a pas de médecin, que à cette époque, en France, on a environ 14 000 sages-femmes et environ 14 000 médecins et officiers de santé cumulés qui exercent surtout dans les espaces urbains. Donc la figure finalement qu'on croise le plus souvent, c'est la sage-femme et c'est ce qu'elle retranscrit. Et elle souligne aussi le fait qu'il y a toujours des matrones. Parce que là où vous n'avez pas de sage-femme, il faut bien quelqu'un pour accompagner. Et les matrones vont perdurer, on les retrouve jusque dans les années 60, puisqu'elles avaient été observées en Bourgogne, il y avait eu de jolies enquêtes dans les années 60 en Bourgogne sur ces femmes qui aident.
1960 ?
1960, évidemment. Donc c'est tout récent par rapport à nous. Le récit de cette sage-femme montre aussi la difficulté de ce métier où il faut être sur le pont en permanence. Il faut pouvoir partir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Comme les pompiers, en somme.
D'une certaine manière, mais sans les moyens de transport. Et c'est ça la grande différence. Elle rappelle, pas de lanterne, pas de bicyclette, l'obligation de marcher, de faire des kilomètres en pleine nuit au milieu des tempêtes. Ça montre aussi, d'une certaine manière, le statut très particulier de ces femmes, puisque à la fin du 19e siècle, une femme de la bonne bourgeoisie ne sortira jamais de chez elle en pleine nuit, seule, pour parcourir des kilomètres. La femme médecin ne sortira pas de chez elle dans ces conditions-là.
Doctoresse, comme on disait.
La doctoresse. Mais la sage-femme, on attend d'elle d'une certaine manière qu'elle dépasse les craintes liées à son sexe pour porter secours.
Le moment où Madame Hervé commence sa profession de sage-femme est aussi un moment de basculement des techniques de l'accouchement. On progresse beaucoup. De quand date l'invention du forceps ?
Alors, le forceps, c'est une invention du XVIIe siècle. Et c'est une invention qui, en théorie, était censée être réservée aux chirurgiens, puisque donc les chirurgiens sont très fiers d'utiliser ces instruments. En théorie, dès 1803, on considère que la sage-femme ne peut utiliser les forceps qu'en présence d'un médecin. Et en 1892, au moment où Madame Hervé commence son exercice, la loi qui réforme la loi de 1803 dit que les forceps sont définitivement interdits aux sages-femmes. Dans les faits, les sages-femmes les ont utilisés pendant tout le 19e siècle. Elles les ont utilisés seules parce que, à la même époque, la plupart des médecins ne savaient pas les utiliser. Donc, dans les écoles, à ce moment-là, on apprend aux sages-femmes à prendre en charge les accouchements normaux, mais on apprend aussi et surtout aux sages-femmes à prendre en charge les accouchements qui tournent mal. Parce que quand vous êtes au fin fond de la campagne et que le plus proche médecin est à 30 km, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre qu'on aille le chercher, qu'il daigne se déplacer et qu'il tente quelque chose pour sauver la personne qui est entre vos mains.
Donc cette évolution correspond au moment aussi où On apprend à lutter contre les épidémies, à se laver les mains quand on est chirurgien, etc. Et à l'influence de Pasteur.
Effectivement, la fin du 19e siècle, c'est toute une série de bouleversements qui vont s'enchaîner. L'irruption de l'asepsie dans les pratiques, qui va toucher autant d'ailleurs les chirurgiens que les sages-femmes. Les sages-femmes deviennent les reines de la désinfection avec les moyens du bord. Hein. Au besoin, on va prendre de l'eau de vie pour désinfecter les instruments, etc. Donc, on a ces basculements-là. On a aussi le basculement très concret qui est que les médecins sont un peu plus nombreux, les médecins savent faire des accouchements. Désormais, se déplacer en France est plus facile, malgré tout. On a plus de routes, on a plus de moyens de déplacement. Donc, on a une reconfiguration du contexte qui fait que la profession de sage-femme va commencer à évoluer. Et parallèlement, on a une petite montée en puissance de l'accouchement en institution, à l'hôpital ou en clinique.
Parce qu'on commence d'être moins préoccupé par la contagion qui intervenait naguère dans les institutions collectives.
Exactement. Le règlement du problème, en fait, de la contagion et de ces terribles épidémies de fièvre puerpérale fait que l'espace hospitalier devient plus sûr.
Renversement à cet égard.
On a tout à fait un renversement. Il devient plus intéressant dans des cas de pathologie d'accoucher spécifique, d'accoucher à l'hôpital que d'accoucher à la maison. Et les médecins commencent à orienter certaines de leurs patientes vers l'hôpital. Il ne faut pas sous-estimer le fait, malgré tout, que l'hôpital reste encore le lieu où vont accoucher les femmes pauvres et les filles mères.
Qui meurent davantage en couche.
Qui vont mourir davantage en couche, mais là pour des raisons très générales qui sont liées au fait qu'elles mangent moins bien, elles ont une état de santé plus dégradé, ce qui accentue évidemment la mortalité.
Eh bien, pour rester dans le domaine des instruments, du progrès dans les capacités concrètes de l'accouchement, écoutez cet entretien avec Augustine Pourcelot par Philippe Hainaut. On est sur France Culture le 12 août 1986. C'est un extrait de l'émission Mémoire du siècle.
Une bonne santé, un bon équilibre, pour beaucoup de courage. Faut pas avoir peur du danger. Faut quand même le voir, le danger. Parce que vous savez qu'il y a toujours un danger quand il y a un accouchement. Maintenant, au dernier moment, on peut des fois avoir un problème qui pouvait se résoudre à l'époque par un forceps. Ce qu'on aurait pu avoir, c'est une modification des poids du cœur. Alors c'était à l'aide d'un stéthoscope. Et avec une grande habitude, une grande expérience. Parce que la première chose, quand on arrivait, on cherchait les bruits du cœur. On les repérait bien. S'il y avait une modification des bruits du cœur, il fallait alerter tout de suite, parce que c'est que notre enfant souffrait. On accouchait sur des bassines, on prenait des précautions, on prenait des vieux draps, on avait du coton, enfin... Question de nettoyage, oui. Je m'en chargeais après, c'était... Je crois que j'ai jamais eu de reproche de ce côté-là. Non, je pense ce qu'il y a à surveiller aussi, c'est de savoir si l'enfant n'est pas pris au cou par le cordon. Et de toute façon, on n'a pas la possibilité de faire des tractions sur ce cordon. C'est une chose à éviter. Ou bien, vous pouvez passer le cordon sur la tête de l'enfant, vous en avez encore suffisamment. Ou bien, là, vous êtes coincé, vous sentez que ça peut étrangler le chat. Alors, vous chopez vos pinces des deux côtés, puis vous faites la section du cordon. Le moment le plus dangereux pour un accouchement, c'est tout de suite après la sortie de l'enfant. Si, par exemple, l'hémorragie se prise immédiatement après la sortie de l'enfant, là... C'est dramatique. Alors je veux dire par là que c'est les premières demi-heures qui suivent l'accouchement qui sont les plus appelantes pour un accouchement. Tout le monde célèbre la joie. Toi, dans ton fort intérieur, t'es braqué sur le visage de ta cliente. Si tout se passe bien, si elle reste rose, souriante et tout, c'est bien. Si tu la vois pas lire, si tu vas appuyer un coup sur le ventre puis que ça fait tchouf, qui en part plein la bassine, ben là, c'est pas la même, hein. Tu commences à t'affoler. Une fois que le placenta est sorti, s'il sort bien normalement, même que tu as une petite hémorragie derrière, tu as toutes les chances d'en être maître. Surtout aujourd'hui, équipé comme on est. Mais on n'y a pas toujours été, pour bien le mentionner.
Aujourd'hui, équipé comme on est. J'ai tenu à vous faire écouter cette archive parce qu'elle me paraît bien définir la différence de temporalité entre le bonheur des familles et les préoccupations des sages-femmes.
Ce témoignage, il montre à quel point la sage-femme est tendue dans l'observation permanente de sa patiente. Et là, on voit aussi le résultat de toute l'importance de la formation à la surveillance de la pathologie dans les études. C'est quelque chose qui est présent dès le 19e et qui s'accentue au fur et à mesure des décennies. Donc cette femme, elle attend d'être sûre qu'il n'y aura pas d'hémorragie du postpartum pour respirer pendant que tout le monde se réjouit à côté. Ce témoignage, il est aussi très révélateur de la différence entre le poids de la responsabilité que portaient les sages-femmes qui exerçaient à domicile et qui faisaient les accouchements à domicile, parce qu'elles étaient les seules maîtres à bord et que donc il fallait être capable d'anticiper toute évolution négative et de réagir suffisamment rapidement. Et de ce point de vue, cette femme témoigne en 1986, donc à un moment où 99,5% des naissances se font de toute façon à l'hôpital. Et la dernière mention qu'elle fait, quand elle dit, bah évidemment, aujourd'hui, on a un matériel qui nous permet de suivre tout ça, montre le décalage finalement complet qui s'est produit entre les accouchements à domicile et l'entrée à l'hôpital, ce qu'on a appelé le grand déménagement des années 50, en fait.
Il demeure néanmoins cette tension pluriséculaire entre le métier de médecin, l'activité médicale, et d'autre part les sages-femmes, avec constamment un effort de celles-ci pour s'installer plus haut dans la hiérarchie, pour être un métier vraiment dans le système médical. Récemment encore, il y a eu des problèmes à cet égard, des efforts. Là, la grève de 2013 a cette portée, non ?
Alors effectivement, les deux professions de médecin et sage-femme rencontrent deux objectifs un peu différents. Le médecin est là pour soigner la pathologie. Il est là pour soigner et si possible guérir. La sage-femme est là pour accompagner la naissance. Alors évidemment, surveiller aussi la pathologie au besoin. Mais par essence, ce qu'elle surveille n'est pas une maladie. Donc on a deux objectifs différents, deux présences auprès des femmes différentes et historiquement évidemment deux présences en termes numériques complètement différentes. Jusque au XXe siècle, le médecin n'est là que quand ça se passe mal. Il ne fait pas en général les accouchements du quotidien, sauf dans certains milieux sociaux. Le basculement à l'hôpital fait du médecin une figure quotidienne de l'accouchement, mais le médecin est formé à la pathologie. Donc lui, ce qui va être central dans son approche, c'est la recherche de la pathologie. D'où parfois une certaine difficulté à s'entendre avec des sages-femmes qui n'abordent pas l'accouchement exactement de la même manière et qui savent voir encore dans l'accouchement les 80-90% d'accouchements qui de toute façon se déroulent bien. Donc ces deux professions ont des visées complémentaires. Mais évidemment, le cadre hospitalier peut renforcer potentiellement les antagonismes hiérarchiques, d'autant plus que le cadre hospitalier ne restitue pas ce qui est la base statutaire de ces deux professions, à savoir que ce sont deux professions médicales à responsabilité définie pour les sages-femmes, tandis que le cadre de la fonction publique hospitalière fait des sages-femmes, faisait en tout cas jusqu'à présent, des paramédicales, donc des figures officiellement subordonnées aux médecins. D'où évidemment des difficultés parfois et des inquiétudes de part et d'autre dans chacune des professions.
Alors nous pourrions terminer notre conversation, Nathalie Sage-Panchère, conversation, émission consacrée aux sages-femmes à travers les âges, jadis, naguère et aujourd'hui, en élargissant peut-être dans l'espace, pour nous demander si dans d'autres pays, des pays moins avancés que le nôtre, on ne retrouve pas des situations assez proches de celles qui étaient celles de la France vers le XVIIe ou le XVIIIe siècle. Et puis vous nous direz un mot des doulas.
Alors la France évidemment et les pays développés ont un statut bien particulier aujourd'hui puisque les taux de mortalité maternelle et infantile sont absolument résiduels, même si la peur de la mort en couche reste quelque chose de quasiment atavique en fait et donc de très présent. Dans les autres pays du monde, on va retrouver cette figure de la sage-femme, et je pense en particulier en Afrique, où il y a une très forte insistance de l'Organisation mondiale de la santé pour la formation de sages-femmes, les sages-femmes étant vues comme des figures pivots des systèmes de santé, à la fois vis-à-vis des femmes, des mères et des enfants.
En élargissant leurs responsabilités vers le temps de la grossesse
oui. et vers la prise en charge évidemment du petit enfant. Ce qui théoriquement est aussi le cas pour les sages-femmes européennes qui peuvent suivre les enfants en très bas âge, faire les premières vaccinations, etc. Donc les sages-femmes restent une figure essentielle des pays en développement aujourd'hui pour lutter contre les mortalités maternelles et primo-infantiles. Parallèlement, on voit ressurgir dans nos pays occidentaux et dans nos pays développés une forme d'aspiration à un accompagnement peut-être moins médicalisé de la naissance, un accompagnement plus humain, que n'ont pas forcément le temps d'apporter des sages-femmes débordées dans des services où il faut surveiller trois parturientes à la fois et où on ne peut pas rester à côté de la personne. Donc on a vu émerger la figure de la doula, qui est une figure un peu surprenante, qui sont des femmes qui accompagnent humainement, émotionnellement, des femmes, des couples, pendant la grossesse et pendant l'accouchement, qui sont rémunérées pour ça, mais qui n'ont aucune approche médicale. Donc, ils ne sont pas du tout des sages-femmes, qui ne vont pas faire les accouchements, qui vont être aux côtés des femmes en travail. Et je trouve que cette évolution de fin du XXe siècle, tout début du XXIe siècle, est assez intéressante parce que là où l'époque moderne voyait cette figure de la matrone qui était la voisine à qui éventuellement on rendait un service en retour, mais qui était présente au titre justement du voisinage, de la proximité, d'une forme de solidarité féminine dans les douleurs de l'accouchement.
Pas de rétribution, un troc.
Voilà, pas de rétribution du troc, effectivement. On substitue au début du XXIe siècle une figure qu'on va salarier pour faire le même travail, pour apporter la même présence. Et de ce point de vue, ce basculement me semble un peu surprenant peut-être, qu'on ait aujourd'hui besoin de payer quelqu'un pour avoir un accompagnement émotionnel à ses côtés.
Donc résurgence et pas résurgence, puisque oui, la rétribution signifie quelque chose sur notre époque qui n'existait pas autrefois, c'est ça que vous
signifie dites. Signifie effectivement que le lien de toute façon qui est tissé n'a plus rien à voir avec un lien ancestral qu'on voudrait soi-disant faire ressurgir.
Merci beaucoup, merci pour cet éclairage sur l'histoire immémoriale quasiment des sages-femmes depuis Socrate et Aristote jusqu'à nos jours. J'évoquais en commençant ce film Sages-femmes, qui est un film de Martin Provost, un film français avec Catherine Deneuve et Catherine Fraud. Martin Provost explique à ceux qui l'interrogent qu'il a été sauvé comme tout petit enfant par une sage-femme qui lui a donné son sang. Et que c'est une sorte de reconnaissance qu'il souhaite exprimer.
C'est une jolie histoire, et d'ailleurs le film a un titre très joli, et je pense que c'est vraiment volontaire de la part du réalisateur, il s'appelle « Sage femme », ce qui renvoie à la profession, mais il n'y a pas le tiré entre les deux, ce qui renvoie aussi à la sagesse et à la place de ces femmes dans la société. Donc il y a un jeu de mots sur le titre, qui n'est peut-être pas évident au premier abord, mais qui, à mon avis, révèle ce que le réalisateur a voulu montrer de cette profession.
Ce n'est pas pour cela, Nathalie Sage-Prancher, que vous-même, vous n'avez pas de tiret entre les deux parties de votre nom de famille.
Non, effectivement.
Vous avez signé un livre sur lequel, naturellement, nous avons fait fond pour préparer cette émission. À titre principal, l'école des sages-femmes, naissance d'un corps professionnel, 1786-1917. Vous concentrez sur cette période et vous nous avez montré que votre savoir s'élargit largement en amont et en aval, qui a été publié par les presses universitaires François Rabelais en 2017. C'est une curiosité qui est ancienne chez vous. De quoi est-elle née?
Alors cette curiosité, elle est née d'un intérêt pour l'histoire des rapports entre médecine et population. Elle est née aussi de la découverte bien heureuse d'un fonds d'archives inédit aux archives départementales de la Corrèze, qui était celui de l'école de sages-femmes de Tulle au XIXe siècle.
Vive Tulle, vous rendez hommage dans votre livre largement à un pionnier de cette histoire qui est Jacques Gélis, que nous saluons, Jacques Gélis, qui a publié deux volumes sur le sujet, notamment le second qui s'appelle « La sage-femme ou le médecin », une nouvelle conception de la vie, paru chez Fayard en 1988. Emmanuel Berthiaud a publié un livre qui concerne la période juste antérieure à la naissance des bébés dont vous vous occupez, et qui s'appelle « Enceinte, une histoire de la grossesse entre art et société », paru aux éditions de La Martinière en 2013. Enfin, Scarlett Beauvallet a publié en 1999, c'est déjà plus ancien, chez Belin, un livre qui s'intitule « Naître à l'hôpital au XIXe siècle ». Merci Nathalie Sage-Prancher. Vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète, au-delà des quatre ouvrages que j'ai cités, sur notre site, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez, vous le savez, écouter, réécouter et podcaster cette émission en la conservant pour l'éternité. C'est très facile de podcaster, je le signale à ceux qui sont encore intimidés par cette opération. Je rappelle que cette émission a été diffusée une première fois le 8 avril 2017. Et la semaine prochaine, j'aurai le bonheur de vous retrouver dans le cours de nos émissions ordinaires.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Guillaume Cotte, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec à la prise de son Jean-Louis Deloncle, à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Anne Brulant. Et dans quelques instants, vous allez rejoindre Étienne Klein pour son émission « La conversation scientifique ».